L'année dernière, un sondage publié par l'IFOP et Ouest France sur l'image des agriculteurs montrait le retour d'un lien positif avec les consommateurs. Après plusieurs scandales alimentaires et agricoles et un mouvement d'agribashing qui avait pris de l'ampleur, les agriculteurs ont su se mobiliser et communiquer autour de leurs conditions de travail difficiles et sur leurs efforts en matière environnementale. Ce travail semble donc avoir porté ses fruits puisque les Français ont une meilleure image des agriculteurs. Depuis le début de la pandémie, les consommateurs semblent également s'intéresser de plus en plus à la transition vers une alimentation plus durable. Et à l'heure des négociations sur la politique agricole commune qui semble totalement d'ailleurs nous échapper, eh bien comment faire de l'agriculture et de l'alimentation un véritable objet de société pour tous? C'est le dossier de la Terre au Carré avec mes invités que je salue. Cécile Détemps de Sandre et Nicolas Bricat. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Cécile Détemps de Sandre, vous êtes directrice scientifique adjointe à l'agriculture à INRAE, membre du conseil scientifique d'Impactons, la convention citoyenne pour l'agriculture, dont peu de personne d'ailleurs connaissait l'existence. C'est l'occasion d'en parler dans un instant. Nicolas Bricat, vous êtes vous socio-économiste de l'alimentation au CIRAD, le centre de coopération internationale en recherche, et vous êtes titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. On va se retrouver donc dans un instant pour parler des Français et de l'agriculture avec les messages sur franceinter.fr et le mot-clé la TAC. 14h30. Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qui fait bzzz, qui est rayé noir et blanc et qui présente une menace pour la santé publique?
Un moustique.
Le moustique tigre, s'il vous plaît, qui est de retour, he's back.
Et 14h45, ce sera le troisième épisode de la série de Caroline Gillet consacrée à la situation écologique et sanitaire des aires d'accueil des gens du voyage. Et puis enfin, dans la chronique du vivant, Marc-André Sellos nous parlera du grand malentendu des fleurs. Voilà pour le sommaire de cette émission. Valérie Ayestaraï est aux commandes, Lucie Sarfati a préparé le dossier, Louis Audebert est à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
L'agriculteur avec son pulvérisateur dans ses champs, il se fait insulter, il se fait sortir de son tracteur.
Ce qui est devenu difficile, c'est le regard des gens sur nos pratiques, au lieu d'être interrogatif, est devenu suspicieux, voire accusateur.
Voilà, France 24 en 2019 pour ouvrir donc cette discussion sur les Français, l'agriculture et l'alimentation. Thème de la Terre au Carré avec vous, Cécile Détemps de Sandre et Nicolas Bricat. Alors je le disais tout à l'heure en présentation, les enquêtes semblent montrer que les relations s'améliorent entre les Français et les agriculteurs, Nicolas Bricat.
Effectivement, il semble que... En fait, il n'y a jamais eu un grand désamour entre les Français et les agriculteurs. Il y a eu de l'agribashing, il y a eu des manifestations d'incompréhension des pratiques des agriculteurs ou de condamnation de certaines pratiques d'agriculteurs. Mais globalement, on voit bien quand même que les Français sont très attachés à leur agriculture, même s'ils en comprennent de moins en moins le fonctionnement.
C'est-à-dire qu'il y a quoi? Une déconnexion entre le terrain, la terre, et puis l'autre bout de la chaîne avec notre assiette et nous, consommateurs?
Il y a certainement une déconnexion entre ce que le consommateur a dans son assiette et ce que le citoyen voit et se positionne par rapport à l'agriculture. Cette histoire d'agribashing... On peut se poser la question d'un certain construit politique, et Nicolas Bricat dit très bien les choses. Je pense qu'il n'y avait pas, un désamour entre les citoyens et les agriculteurs. Il y a peut-être un désamour entre les citoyens et une certaine forme d'agriculture.
Oui, c'est-à-dire?
La FNSEA, vous parlez?
Alors,
pour la cité,
on va pas forcément rentrer sur des positions d'organisation professionnelle, mais une certaine forme d'agriculture qui était en fait qui a été propulsée et qui a été très soutenue par les politiques et la PAC dont vous parliez. C'est-à-dire qu'on a poussé les agriculteurs à une certaine forme d'agriculture depuis 50 ans. On leur a dit,
il faut nourrir
les Français et l'Europe.
La sortie de la guerre, c'était déjà ça le dépoir. Hein.
Ouais. Donc sortie de la guerre, on a dit la politique. La politique agricole commune, elle est là pour nourrir l'Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a intensifié, on a organisé, structuré, agrandi les fermes. Et donc, en fait, le résultat de la situation agricole, elle est aussi le résultat de cette politique.
Ouais. Nicolas Bricat, alors comment vous expliquez justement que les Français s'intéressent aussi peu à l'agriculture, alors finalement, ils apprécient quand même ceux qui la font?
C'est peut-être pas qu'ils s'intéressent peu, mais c'est que les rapports des consommateurs majoritairement urbains à l'agriculture ou à l'alimentation se sont distanciés. L'alimentation vient de plus en plus loin, c'est une distanciation géographique. Elle passe par de plus en plus d'intermédiaires, des transformateurs, des commerçants, etc. Elle s'est distanciée d'un point de vue économique, elle s'est distanciée d'un point de vue cognitif. on n'est plus fils d'agriculteurs ou très peu nombreux à être fils d'agriculteurs. On côtoie plus beaucoup d'agriculteurs, donc on ne sait plus véritablement comment ça marche. Mmh. Distanciation aussi politique, c'est-à-dire on a le sentiment de n'avoir aucune prise sur l'évolution de l'agriculture, sur les politiques agricoles qui sont aux mains des lobbies, des syndicats, des gouvernements, de la Commission européenne.
Ouais.
Ces distanciations des rapports alimentation créent de l'anxiété, créent une inquiétude en se demandant qui nous pilote, qui fait quoi, et du coup une recherche de proximité. Proximité géographique, c'est plus court. Proximité économique, c'est vente directe. Proximité cognitive, c'est se réintéresser effectivement à comment on cultive des légumes, qu'est-ce qui se passe dans l'agriculture. Et proximité politique, c'est se réinvestir aussi dans des espaces locaux de gouvernance sur les questions alimentaires.
Et ça, la crise du coronavirus n'a fait qu'amplifier, au fond, des tendances qui se dessinaient déjà, celles que vous venez de décrire sur, par exemple, le local.
C'est très intéressant. La crise du coronavirus, elle montre que l'alimentation n'est pas un allant de soi. Que finalement, tout d'un coup, on a dû se poser la question, où est-ce que je vais faire mes courses? Parce que certains magasins étaient bloqués, parce que on n'avait plus trop le droit de se déplacer. On s'est remis à faire de la cuisine. Donc tout d'un coup, la question alimentaire est revenue dans le quotidien des Français. C'est à nouveau des questions qu'on s'est posées.
Cécile de Temps de Cendre, ça sort aussi de la Convention citoyenne pour l'agriculture, parce qu'on va en parler, il n'y a pas eu que celle pour le climat. Hein.
Donc... Le fait que la crise du Covid ait changé quelque chose, en fait, ce qu'il va falloir voir, c'est si ça dure. Parce que ça, pour l'instant, la recherche, on ne sait pas. C'est-à-dire que oui, il y a eu des changements de fait, parce qu'on a changé de mode de vie, mais est-ce que les habitudes alimentaires et les habitudes d'achat et de consommation vont rester et vont se prolonger? Pour l'instant, on est encore dans le brouillard. Ça, on ne sait pas.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même un premier point qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors ensuite, se nourrir comme... la distanciation, c'est clairement aussi porté par le fait que, pour une grande partie, on s'alimente hors du foyer. Alors, le Covid nous a ramenés à nous nourrir au foyer. Et ça aussi, rien ne nous dit que les choses vont continuer sur ce point-là.
Nicolas Bricasse, la paupérisation quand même d'une partie de la population a joué un rôle très important aussi dans la recherche d'autres solutions pour se nourrir.
C'est probablement la plus grande transformation qu'a provoquée la crise. C'est une paupérisation accélérée d'une partie de la population qui était, on va dire, la classe moyenne qui arrivait tout juste à joindre les deux bouts et qui tout d'un coup tombe en situation de précarité parce qu'elle perd une partie de ses revenus. Et là, on a véritablement une explosion de la précarité alimentaire avec une très faible marge de manœuvre. Hein. Si on regarde les gens qui sont dans ces situations-là, ils calculent leur budget alimentaire à quelques euros près. Hein. Donc on a un décalage croissant qui émerge entre, d'un côté, une préoccupation très économique et une préoccupation de tas d'autres gens qui voudraient construire un autre système alimentaire, mais qui est probablement plus coûteux.
Ouais. Sur Internet, on peut voir un phénomène en ce moment avec des vidéos qui s'appellent « Retour de course » qui témoignent directement justement de ce problème à l'accès de la nourriture. On va en écouter un extrait, on le commente juste après.
On se retrouve de nouveau pour un retour de course. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses. Le prix est toujours très raisonnable, voilà, donc je suis toujours très satisfaite. C'est parti, on commence. Alors, pour commencer, on a pris donc une grosse barquette de carottes râpées. J'ai pris également donc pour les entrées de la piémontaise au jambon. Donc je sais, il y en a qui vont me dire oui, tu pourrais le faire maison, etc. Mais j'en ai pas envie, voilà. J'ai pas envie de m'expliquer plus, point barre. Et pour finir, du pain.
Voilà, retour de course, hein. Il faut décrire, c'est une mère de famille donc qui revient du supermarché et qui régulièrement poste des vidéos. Et c'est pas la seule parce que ça fait des milliers de vues pour comparer les prix au centime près, hein, Nicolas Bricasse. Hein.
C'est intéressant, c'est un phénomène qui a commencé aux États-Unis qui s'appelle les grocery hauls et qui est maintenant assez viral en France où des dizaines de femmes, généralement, souvent de faibles revenus, viennent partager leur tactique, leur bon plan, on pourrait dire, et partagent leurs compétences, à savoir essayer de gérer entre les différents prix et les différents produits, et en même temps, comment faire la cuisine, comment satisfaire tout le monde. Donc c'est un témoignage très intéressant de la façon dont les gens à faible pouvoir d'achat essaient de se débrouiller pour manger mieux.
Cécile de Temps de Cendre, ça c'est aussi c'est une partie de la population qu'il ne faut surtout pas oublier dans ces questions. Hein.
Mais j'aimerais décaler juste un instant le débat. En 1979, pour la partie, les 20% les plus modestes, l'agriculture, c'était, l'alimentation, c'était 35% de leur budget. Maintenant, c'est 18%.
Ouais.
Et donc, il faut aussi se poser la question, On a conduit les Français pendant 50 ans à concevoir qu'ils allaient se nourrir toujours mieux, toujours moins cher, toujours plus diversifié. Et là, il y a une vraie question de société. Quelle est la place de notre alimentation dans le budget et dans la construction de nos budgets, oui.
Mais les choses ont évolué. Il y a aussi les budgets qui ont changé parce qu'il y a des nouvelles utilisations qui sont apparues dans la société. On va penser évidemment aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, ne pas avoir d'ordinateur, ne pas avoir de téléphone, c'est très compliqué. Il y a encore des gens qui peuvent pas. Mais il y a des postes de dépenses qui vont là-dessus. Et il y a une question par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par exemple, à cette vidéo sur YouTube, d'éducation. Est-ce que, quand on entend une barquette de carottes râpées, Nicolas Bricasse, aujourd'hui, acheter des carottes en vrac et les râper soi-même, ça revient moins cher, j'imagine, qu'une barquette de carottes râpées toute faite ou pas? Je ne sais.
Ça va vraiment dépendre des préparations. Nicole Darmon de l'INRAE a par exemple très, très sérieusement étudié ça, de comparer est-ce que ça vaut plus cher de cuisiner soi-même ou d'acheter des plats cuisinés. Et dans certains cas, si on valorise le temps de travail domestique à la maison, ouais, au prix du travail, à ce moment-là, ça peut revenir plus cher de cuisiner chez soi. Ça va beaucoup dépendre des produits. Mais donc, c'est pas si simple que ça. La question, c'est est-ce que c'est simplement en éduquant les gens? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on tend à expliquer aux gens qu'il faudrait qu'ils mangent davantage de fruits et légumes, qu'il faudrait qu'ils mangent plutôt bio, qu'il faudrait qu'ils mangent moins de viande rouge, en tout cas. Donc, on leur donne un certain nombre de prescriptions qui peuvent se retrouver coûteuses. Et ils n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre.
Coûteuses financièrement, vous
voulez dire? Coûteuses financièrement, aussi en temps. Acheter bio, acheter plus de fruits et légumes, ça peut revenir plus cher. On peut y arriver à manger de bonne qualité et pas cher, mais généralement quand même, bah, par exemple, le bio est plus cher.
On va écouter justement un extrait de ce film qui sort aujourd'hui sur les écrans, auquel vous avez participé justement, Nicolas Bricasse, ce film de Geoffroy Coinon qui s'appelle Douce France, qui sort donc en salle. On va en raconter l'histoire dans un instant. Là, on va entendre juste justement une scène entre une maman et sa fille sur le prix du bio.
On a cueilli des... C'était quoi? C'était des épinards, enfin des légumes. Il nous a expliqué l'agriculture bio, tout ça, tout ça.
Et il a dit que c'est quoi l'agriculture bio, en fait?
Bah, c'est une agriculture où ils n'utilisent pas d'engrais, tout ça, tout ça, là. Et ils respectent la terre. Par exemple, tu vois, ils laissent les... comment ça s'appelle? Les micro-orgues. Par exemple, les vers de terre, tout ça, qu'il y a dans la terre et tout, bah, ils cherchent pas à les exterminer, tu vois.
Ici, c'est encore du luxe, hein, le bio. Si j'avais les moyens de consommer que bio, eh ben moi, je vais consommer que bio.
Je suis choquée. C'est pas toi, tu m'envoies des 22 heures pour aller t'acheter des sauts de KFC?
Non, mais...
Tu dis ça?
Ah ouais. Ça, c'est exceptionnellement, ouais, quand j'ai pas envie de préparer.
Ouais. Voilà, il y a le bio et il y a les sauts de KFC, justement. Nicolas Bricasse, c'est l'histoire donc d'une enquête entre des jeunes lycéens de quartier populaire, de la banlieue parisienne, Villepinte en particulier, sur le projet Europa City. Et ils en profitent justement pour apprendre aussi, faire connaissance avec l'agriculture.
Des jeunes qui, dans leur lycée, voient des champs par les fenêtres, mais réalisent pas ce que ça veut dire l'agriculture. Et donc, il y a des enseignants qui leur proposent de faire une enquête sur un projet qui va effectivement artificialiser des terres agricoles, ouais, pour faire un gigantesque centre commercial. Tout le monde est assez emballé à l'idée qu'ils vont pouvoir aller faire du ski dans un centre commercial et faire plein d'emplettes.
Près de Paris, ouais.
Et puis, au fur et à mesure que l'enquête avance, mais je vais pas dévoyer tout le film, bien évidemment, il commence à comprendre qu'est-ce que c'est que l'enjeu agricole, qu'est-ce que ça veut dire de se nourrir. Et du coup, c'est l'intérêt que suscite cette enquête chez, ouais, les jeunes sur l'agriculture.
Donc ça s'appelle Douce France. Hein.
C'est formidable. C'est très drôle, c'est un film formidable, très, très bon, et il sort aujourd'hui en salle.
Ça sort en salle, effectivement. Un mot sur cette mère de famille, Cécile de Tendecendre, et la question du bio qui fait toujours figure de produit de luxe, au fond. Hein.
Oui, l'agriculture biologique, l'alimentation à base d'agriculture biologique est plus chère que l'alimentation à base d'agriculture conventionnelle. Bien sûr, on est entre 20-50%, mais n'empêche que le problème, c'est qu'aussi on a des rendements plus faibles. Donc, de fait, produire bio conduit à des rendements qui amènent des prix plus élevés.
Juste sur l'extrait qu'on vient d'entendre, Nicolas Bricasse, on entendait parler d'un fast-food. Est-ce que là, en l'occurrence, ça revient plus cher de manger bio que de manger au fast-food, par exemple? Est-ce que on a l'impression que ça va être plus cher le bio, mais est-ce que dans les faits, c'est plus cher que d'aller s'acheter un seau d'ailes de poulet?
C'est toujours très compliqué de calculer le prix parce que, en fait, effectivement, ça peut revenir plus cher pour se nourrir, pour remplir son ventre pendant un repas, mais il faut regarder derrière tous les effets que ça va avoir sur notre santé. Mmh. Et donc, si on commence à intégrer les effets sur la santé, si on les intégrait dans le prix, on va s'apercevoir que les choses sont très différentes. C'est-à-dire, c'est peut-être pas cher de se remplir le ventre avec du gras, du sucre. Effectivement, c'est bourré de calories. Et on remplit son ventre avec ça. Mais on sait derrière que c'est des tas de problèmes de santé publique qui se développent.
Allez, les Français, l'agriculture et l'alimentation, dossier de la Terre au carré, avec vos questions qui arrivent sur franceinter.fr.
Girls in my area cold, dark skin, light skin, medium tones. Pumping braids, got mini afros. Thick lips, got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat booty like Kardashians. Wanna fat booty that my auntie got, yo. Wheel up the blood clot, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women things, I'm never at risk. Mind my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't bae. Get a slice of the cake. Want a house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the jump. Gucci gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth. Do you, they don't care. Do you, they don't care. Get your ass at the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. And rock Nikes cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ leather jacket cause I think I'm bad.
That's cool, I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright.
I can miss some time away.
More put them in cursive, deep like I'm burying hearses, preach like I'm doing up churches, sin for a bit, I got urges, they got Chanel bags and purses, and I got some mashed up vans that I won't throw away cause I'm needy and hurting, I keep it in cause I can, I've seen the drinks and the cans, I think it's in my genetics, so the gin and the juice that I drink, I'm indebted, so if I fall off, it's expected, wow, gather your thoughts and collect them now, penny for my thoughts, make a fortune, bow, how'd you keep rapping off beat, bro, how, talking about you getting on the tracks this when, everybody's here, we don't need more friends, just do you, you ain't gotta pretend. Just do you, you ain't gotta pretend. He was doing school while they were doing ends. Now he's doing money and the man are doing pen. You know about six or five of the men. You know about half of the men full of trends. He said to me, they put guns in the streets. That's what they wanted for me. And I said, gee, someone can fix you a plate, but no one can force you to eat. Like, when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets? And when will we come together as a tribe and be what intended to be? I just wanna be free. Yeah.
Black Girl, c'était Eni.
La Terre au carré sur France Inter.
Pour l'objectif de que la France nourrisse elle-même, s'alimente elle-même, on a besoin d'une agriculture qui soit plus forte. Mais pour faire une agriculture plus forte, il faudrait plus d'agriculteurs.
Bah voilà, mais c'est ce que je dis. C'est bah pas oui. Tout le monde qui veut devenir agriculteur.
Bah oui, parce que le métier il est tellement ancien que ça plaît à personne.
Là, on voit des terres. Nous, je dis, bah, on peut faire plein de trucs avec les terres. On peut construire et tout. Et c'est comme ça que les chefs d'aménagement, ils disent, bah, on peut construire, on peut bétonner le sol. Là, on voit rien. Il n'y a même pas de tracteur, il n'y a rien. Donc, comment on veut s'intéresser? C'est nul!
Voilà, extrait de Douce France, donc qui sort aujourd'hui sur les écrans films de Geoffroy Quanon, que je vous invite vraiment à découvrir avec ces jeunes donc de Villepinte. Bah, le film montre surtout Nicolas Bricasse, puisque vous avez des conseillers scientifiques, hein, que bah, même quand on s'intéresse pas du tout et qu'on voit pas de tracteur hein, à la question agricole, on peut être amené quand même à faire des pas en avant. Hein. C'est ce qui se passe là dans le film. Hein.
Tout à fait. En fait, au début, ces élèves, ces lycéens, comprennent rien à l'agriculture. Ils savent même pas ce que c'est. Ils n'ont pas réalisé que les champs qu'ils voient, c'est ça l'agriculture.
Ouais.
Et donc, on les voit se mettre à s'intéresser aux questions que posent. Est-ce qu'on garde les terres? Quels seront les agriculteurs de demain? Comment ils cultiveront? Donc, on voit bien que ça les intéresse.
Ouais.
Il y a eu en Occitanie une convention citoyenne qui portait absolument pas sur les questions agricoles. Qui portait sur trois questions sociétales en général. Première discussion de la convention citoyenne, 110 personnes tirées au sort, a porté essentiellement sur les questions alimentaires et agricoles. On voit bien que ça intéresse les gens, c'est leur quotidien. C'est ce qu'ils font trois fois par jour.
Camille, les questions des auditeurs.
Oui, Raoul sur franceinter.fr qui nous écrit qu'il est paysan bio dans le Finistère à Cléder. Le Covid n'a malheureusement pas vraiment changé les habitudes. Nous avons eu beaucoup de monde pendant le premier confinement, mais maintenant, zéro nouveau client. Ça répond peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile, de Temps de Cendre.
Et pour compléter, les enquêtes montrent que les consommateurs semblent plus finalement attachés à la localité
qu'au bio.
Et ça, on le voit tant sur les enquêtes d'opinion que sur les consentements à payer. Quand on fait des travaux sur les consentements à payer, ils sortent majoritairement sur ces produits à côté, je sais d'où ça vient, beaucoup plus que c'est des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement.
Pourquoi Nicolas Bricasse ? Parce que c'est plus concret au fond, on a l'impression d'agir plus efficacement en achetant local plus que bio ?
C'est une réaction aux distanciations dont je parlais tout à l'heure. Cette distanciation génère de l'inquiétude et du coup, en réaction, elle génère une recherche de proximité. Donc le local, donc le court, donc refaire moi-même. Imaginez que je vais à nouveau pouvoir maîtriser mon système alimentaire. Mais à propos des changements dont parle cet auditeur, c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que ça n'a pas changé grand-chose à court terme. Mais si on compare avec ce qui s'était passé avec la crise de la vache folle, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ça n'a pas changé grand-chose sur le moment. Mais au moment d'un déménagement, au moment de l'arrivée d'un enfant, au moment d'un changement de mode de vie, à ce moment-là, on recompose ses pratiques. On s'interroge, où est-ce que je vais aller faire mes courses maintenant, comment je vais organiser mes journées. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les changements. Donc je pense qu'en fait, la crise, elle a provoqué des prises de conscience et que ces prises de conscience vont maintenant se traduire par des changements, mais ça va prendre un certain nombre d'années.
Une autre question de Julie Nicolas Bricasse qui voudrait savoir pourquoi le bio est plus cher et est-ce que ça veut dire que les agriculteurs bio ont des revenus plus importants ?
Le bio est plus cher parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on a du mal à avoir les mêmes rendements que dans une agriculture très industrielle, où on met beaucoup d'engrais, où on protège des cultures avec des produits phytosanitaires. Donc c'est à la fois, on a des moindres rendements aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, et puis on a plus de risques parce que du coup, on artificialise moins la plante. Donc le fait est que il faut aussi plus de main-d'œuvre pour s'occuper et pour remplacer ce que font les produits chimiques et que la main-d'œuvre elle coûte cher. Mais maintenant, si on fait un véritable effort de recherche agronomique pour arriver à trouver des solutions sans utiliser la chimie, on pourra espérer avoir à nouveau de meilleurs rendements. Mais c'est vrai que ça va prendre un certain temps.
Cécile, des Temps de Cendre, Impactons, ça c'est une plateforme officielle de débat qui a été lancée en février 2020. C'était la convention citoyenne finalement autour de l'agriculture. Peu de personnes en ont entendu parler parce que y a eu la Covid aussi. Et puis en ce moment, la politique agricole commune qui est négociée à l'échelle de la France et à celle de l'Europe. Et là, même chose, ça touche très peu de nos concitoyens alors que les enjeux sont absolument fondamentaux pour l'avenir.
Si la PAC est une politique compliquée à expliquer, très technique, pour autant, les enjeux, ils concernent tout le monde. Et donc, c'est sur cette base-là, et puis c'est surtout sur aussi une base légale, puisqu'en fait, dès lors que vous instruisez une politique qui touche à l'environnement, l'État est tenu, le gouvernement est tenu d'engager une discussion citoyenne. Alors, une fois qu'on a dit ça, cette convention, elle a mis en route... C'est une convention, mais c'est aussi des débats publics, c'est aussi c'est tout un ensemble qui a été organisé. Et l'idée était, en partant de la PAC, on s'est mis à parler de l'agriculture et en fait de comment réorganiser, faire discuter les citoyens sur une question qui est quel agriculteur veulent-ils.
Donc alors, comme la Convention pour le climat, il y a eu aussi des propositions qui sont ressorties.
Complètement. Donc en fait, il faut avoir en tête que donc la CNDP, qui est le comité qui doit débattre, qui organise ces débats, ils en étaient au 100e débat. Ça fait 25 ans qu'on organise des débats publics sur plein de sujets locaux ou pas. Et donc, je me suis perdue, je sais plus quelle était votre question.
Justement, sur le fait des propositions de ces discussions.
Les propositions. Donc en fait, il y a eu un premier temps où ils ont sorti des enjeux. Et ce qui est très intéressant sur ces enjeux, c'est qu'il y en avait deux qui étaient très tournés vers le revenu des agriculteurs, l'importance de remettre des agriculteurs dans les champs. Donc en fait, il y avait vraiment, sur les 6, il y avait vraiment des propositions qui concernaient l'agriculture et son devenir. Et puis, de l'autre côté, il y avait deux thèmes autour de l'environnement. Et là, on se retrouve à cette schizophrénie, c'est que d'un côté, on veut une alimentation pas chère, accessible, et puis de l'autre, on veut de l'environnement. Donc il y avait ces deux parties-là, et puis la troisième, le troisième grand paquet était autour de comment nourrir le monde.
Ouais.
Donc, on retrouve l'ensemble des préoccupations que l'on peut avoir. Alors la PAC, ben voilà, elle est censée être là pour piloter ça. Ça n'empêche pas que la PAC, c'est 50 ans d'histoire européenne et on ne fait pas bouger les choses comme ça.
Ouais. Et pourtant, on devrait beaucoup plus impliquer les citoyens là-dedans aujourd'hui.
Eh ben, alors, c'est Voltaire qui disait la médecine est un problème beaucoup bien trop important pour la laisser au seul médecin. Et c'était aussi la même question, c'est de dire l'agriculture, le sol est important. C'est-à-dire qu'il est important que les agriculteurs soient impliqués dans cette histoire-là. Il n'est pas question de les déposséder. Il n'est pas question d'opposer les citoyens et les agriculteurs. C'est vraiment l'histoire de dire...
Pourtant, nombreux sont ceux qui se sentent dépossédés par la PAC et qui l'ont fait savoir. Les agriculteurs à poil, par exemple, pour le bio très récemment dans les rues de Paris.
Et Xavier, par exemple, là sur franceinter.fr, qui nous écrit tout simplement « De mon point de vue, la PAC nous fait une agriculture absurde ».
Allez, on revient à tout cela dans un instant avec d'autres questions pour vous puisqu'il est déjà 14h30.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert et l'arrivée de l'été n'a pas que des avantages puisqu'elle signe, Camille, le retour des moustiques-tigres.
Oui, avec les municipalités et les agences régionales de santé ultra vigilantes dans la soixantaine de départements qu'il a déjà colonisés depuis son arrivée par le Sud-Est en 2004. L'invasion continue, comme dans la région Nouvelle-Aquitaine où Cécile Billot est ingénieure sanitaire à l'ARS.
Sur 3400 communes, il y a 566 communes colonisées en Nouvelle-Aquitaine, dont 74 l'année passée.
Voilà, 74 communes de plus, rien que là-bas. Et le moustique-tigre a ses petites tactiques pour s'installer dans de nouvelles contrées.
Il est très malin, il profite en fait d'un certain nombre de facteurs pour se déplacer, et notamment des transports, donc voitures, valises, etc. Et donc progressivement va s'installer dans des nouveaux territoires où il va trouver une présence humaine.
Et des récipients, parce que la femelle moustique-tigre pond sur les parois de n'importe quelle coupelle ou bassine. Et quand la pluie tombe, l'eau qui les remplit permet ensuite aux œufs de se développer. Alors il y en a un qui le sent bien passer chaque année, c'est Cédric et sa famille juste à côté de Bordeaux. Il est en guerre totale contre la bestiole d'à peine 2 mm rayée noir et blanc.
J'ai mis des moustiquaires sur les ouvertures de notre chambre. J'ai des raquettes électriques à moustiques pour les tuer. Et le soir, j'en tue, pas encore à cette saison, mais un peu plus tard, entre 5, 10, 15 tous les soirs dans la maison.
Il faut dire que Cédric habite à côté du paradis du moustique-tigre, le jardin de son voisin.
Chez mon voisin, il y a des réservoirs d'eau qui récupèrent l'eau des gouttières. Il y a aussi des gros bidons de 200 litres d'eau croupie qui sont là depuis des années. Beaucoup de pots de fleurs ou de pots de confiture qui sont un peu laissés dehors, enfin des pots de confiture vides, plein de récipients qui réceptionnent l'eau.
L'enfer pour lui.
Ouais, c'est un peu pénible, effectivement. Lui, il est âgé et je pense qu'il se rend pas trop compte, alors que pour nous, c'est vraiment gênant parce qu'on est vraiment envahi de moustiques. Moi, j'y suis allé plusieurs fois pour retourner les pots, pour les vider, etc. Donc, c'est moins qu'avant. Mais néanmoins, il faut que j'y retourne régulièrement pour m'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles casseroles, de nouveaux récipients qui traînent.
C'est une vraie bataille, là.
Oui, contre le moustique-tigre, oui. Pas contre le voisin, parce que le voisin, vraiment, il se rend pas compte et j'essaye plutôt de l'aider. Et il est super sympa avec moi quand je vais chez lui.
Alors, les services de la métropole de Bordeaux sont même intervenus après signalement de la présence du moustique sur la plateforme signalement-moustique.fr. Signalement-moustique.fr, c'est national et ça permet de cartographier la colonisation. Donc, n'hésitez pas si vous en apercevez. Irrémédiable en tout cas cette colonisation. Écoutez Annabella Fayou, Madame Moustique-Tigre à l'Institut Pasteur. Elle est professeure en entomologie médicale.
Une fois qu'il est installé, il va rester. Il partira jamais. On n'arrivera jamais à l'éradiquer. Pourquoi ? Parce que sa biologie lui permet de survivre à beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on les appelle les espèces invasives.
Alors pendant qu'aux États-Unis on dissémine des moustiques OGM pour les éliminer, je vous en ai parlé, en France il existe des traitements pour tuer les larves à l'aide d'une bactérie, des insecticides pour tuer les adultes quand il y a un des risques avérés d'épidémie. Parce que, est-ce que je dois le rappeler, le moustique tigre est vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et de Zika par sa salive. 6 foyers autochtones ont été détectés l'an dernier en métropole. Alors Annabella Fayou disait qu'il résiste à tout ou presque et il pullule.
Ça pond énormément, ça fait ça une femelle, une fois elle peut pondre entre 50 et 200 œufs, sachant qu'elle va pondre tous les 5 jours.
Et cela tout au long de sa vie de 3 semaines à 3 mois maximum, avec comme nourriture principale, au-delà du sucre trouvé dans les plantes, pour avoir l'énergie de voler, nous.
Il s'est adapté à cette qualité de sang. Il y a des moustiques dans la forêt, ils vont piquer le singe, même ils vont piquer un crocodile, piquer un serpent. Et ce que ne fait pas notre moustique tigre, il va piquer essentiellement les hôtes vertébrés qui sont à proximité de son environnement, c'est-à-dire l'homme.
Et pourquoi ils ont besoin de sang en fait, les moustiques ?
Parce que le sang contient toutes les protéines nécessaires à la fabrication des œufs, qui contiennent tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer le développement des œufs.
Et alors à la question Mathieu, est-ce que cette femelle qui nous pique, et pas les mâles, hein, je le précise, ouais. Est-ce qu'elle a des cibles privilégiées ?
Oui.
Oui, mais je ne peux pas vous faire une généralité sur le profil des proies préférées du moustique tigre, parce que ça dépend de votre odeur, des molécules que vous émettez, et puis de ce qu'il a mangé lui juste avant.
Mais est-ce qu'on peut quand même faire des choses pour limiter les risques, au-delà de la raquette électrique à portée de main ?
Oui, et là c'est Cécile Billot de l'Agence Régionale de Santé en Nouvelle-Aquitaine qui vous donne les conseils.
Supprimer tous ces gîtes potentiels de ponte du moustique dans son jardin, dans son environnement. Par exemple, des petits creux de bâche, des jouets par exemple dans le jardin, le pied de parasol qui peut se remplir après chaque pluie. Dans les coupelles de pots de fleurs, il y a notamment une astuce, c'est de mettre du sable en fait dans ces coupelles. Comme ça, quand on arrose, l'eau est bien disponible pour la plante, mais en même temps, par contre, pas disponible pour la femelle moustique pour y aller pondre. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que le moustique tigre vit dans un rayon de 150 mètres. Donc c'est un moustique qui est né dans son jardin ou chez son voisin.
Donc on se parle.
Très
hein,
bon
je sais
conseil,
ça,
hein, ah, j'adore.
Je vous ai vu réagir.
Oui.
Menez la bataille ensemble, hein, si vous avez zéro pot sur votre fenêtre ou sur votre balcon ou dans votre jardin, c'est forcément quelque part dans les 150 mètres. Pour au moins, non pas les éradiquer, on a compris, mais limiter la propagation. Dernière chose Mathieu, Annabella Fayou a rassuré ma conscience, on peut les éclater à peu près tranquille, ce ne sera pas très grave.
Non, vous n'allez pas bouleverser les équilibres des écosystème. Hein.
Alors, je vous laisse faire.
Ouais. Ah, il y en a un, là, dans le studio, là. Attends, on va la voir. Attendez,
C'est bon.
Et voilà, vous avez vu l'efficacité, c'est mieux que la raquette électrique, ça. Voilà. Et c'est Camille Passauvert, à réécouter sur franceinter.fr.
Nicolas Bricas,
ouais.
vous venez de lever le doigt, le poing.
C'est... Non, pouce. Bravo.
Le pouce, oui.
Ça vous inspire quoi, vous, les moustiques?
Est-ce que ça peut être un problème pour l'agriculture? On ne sait jamais, dans les cultures, les moustiques tigres. Non, ils sont juste embêtants pour les hommes, il n'y en a pas dans les cultures.
Je ne crois pas qu'ils embêtent beaucoup l'agriculture. Non. Ils ont la particularité d'être particulièrement silencieux et de piquer quasi instantanément. Dès qu'ils vous posent sur votre peau.
Alors ça, c'est vrai. Elles sont agressives, mais par contre, ils ne sont pas tellement silencieux, parce que de toute façon, quand ça vole, les ailes font du bruit, forcément.
Oui, mais moins que les moustiques classiques qu'on avait autrefois.
Enfin, ça doit emmerder les agriculteurs sur leur tracteur, quand même, non? Parce que quand vous arrosez, par exemple, et vous créez de l'humidité, c'est le meilleur moment pour en avoir sur vous, non?
Nicolas Bricas n'est pas spécialiste des moustiques. Non, je ne suis pas du tout spécialiste du moustique tigre. Je ne sais pas s'il y a des moustiques tigres dans les champs.
Il y en a beaucoup, c'est surtout en ville, les moustiques tigres, il faut le dire.
C'est là où il y a de l'eau qui stagne.
Ouais. C'est là où il y a des humains.
Et elles ne stagnent pas beaucoup dans les champs.
Mais ce ne sont pas les seuls à piquer quand même. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous pour parler agriculture et alimentation.
Pas d'auréole, mes couronnes sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que je ne débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruge. J'ai toujours refusé de juger les autres, parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je cogne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue.
Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. Révolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace mais la terre à tes pieds. En combi d'astronautes à l'arrêt de bus, je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop, fils d'immigré aura toujours la dalle. En amont c'est dur de rester au top, dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice, fume cigare sans cannabis. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe. Me parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre, l'amour, les océans de larmes. Je suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà.
Voilà, Youssoupha avec Astronaute. Youssoupha qui sera d'ailleurs cet après-midi, hein, Camille,
ouais,
pour le concert
de
d'inauguration de la Maison de la Radio et de la Musique.
C'est à partir de 16h, j'essaie de voir à quelle heure il passe exactement.
Mais venez à partir de 16h, comme voilà. Ça vous ne louperez pas les artistes.
Placement
également
libre.
Hervé, Jean-Louis Aubert et donc Youssoupha. C'est en face de la Maison de la Radio, c'est gratuit, c'est en plein air et il fait beau, profitez-en.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Tu te rends compte de à quoi ça peut servir la Terre ?
Bah ouais, ça, c'est utile pour les habitants parce que vous êtes dans un petit village, du coup, il n'y a pas forcément tout à proximité.
Ouais, parce qu'en fait, quand t'as jamais vu un champ, c'est normal de te dire qu'on s'en fout de foutre un centre commercial dessus, j'imagine.
Ouais. Tu vois, ce qui est à la mode maintenant, ce serait tu vois, de travailler dans un bureau, tu vois, les métiers comme ça un peu et tout. Et agriculteur, tu vois, c'est un peu l'opposé.
Ouais, parce que quoi, ça fait de l'extérieur, ça fait quoi, ça fait sale.
Non, même
pas. Parce qu'il y a la terre, ou ça fait dur.
Franchement, moi personnellement, j'aime pas la nature. Donc,
c'est vrai.
Ouais. Après, je dis pas que c'est pas stylé, mais moi, c'est pas ce que j'aime personnellement.
Ouais.
Voilà, toujours extrait de ce film Douce France qui sort aujourd'hui de Geoffroy. Quoi non à voir au cinéma pour bah, justement voir comment des jeunes de Villepinte, par exemple, sont amenés tout d'un coup à s'intéresser à ces champs qui sont à côté de chez eux et dont ils ignorent à peu près tout. Est-ce que la question du renouvellement des générations est un problème crucial, Cécile Détend de Sandre ?
C'est certainement un des
grands... De génération d'agriculteurs.
D'agriculteurs, hein. Bien sûr. C'est un des grands enjeux qui sont devant nous. Il faut avoir en tête que... On a plus de 50% des agriculteurs qui auront plus de 65 ans en 2025. Ça vous dit, ça veut dire plus de la moitié qui seront en retraite ou en passe d'être à la retraite. Donc il y a une vraie question de comment on réinstalle des jeunes. Et ce qu'on voit en premier, c'est que en fait les projets d'installation, ils ne correspondent pas aux exploitations qui vont être cédées. Et donc il y a un problème vraiment majeur d'adaptation entre comment les jeunes veulent s'installer et les exploitations qui vont être à remettre. Donc ça, c'est la question de la relation foncière est énorme. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à vivre. Et donc la vraie question, elle est le revenu. C'est-à-dire que
vous pouvez rappeler, pardon, le revenu moyen actuel des agriculteurs.
C'est compliqué de mesurer, mais parce qu'en plus c'est très très diversifié par rapport à l'orientation productive que vous avez. Mais on est en moyenne sur des revenus courants avant impôt d'exploitation qui sont autour de 30 000 euros.
Mais
par an, bien sûr, ouais. On parle par an. Bon, on évalue à peu près à 1 000 euros par mois en moyenne. De revenus selon les différentes sources que l'on peut prendre. Donc voilà, après avec des diversités énormes, quoi. Mais ça reste des revenus faibles. Donc les jeunes, ils sont prêts à s'installer. Par exemple, il y a une situation que je trouve vraiment très emblématique, c'est l'installation dans le comté. C'est le seul endroit où on a des installations, plus d'installations que de départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet qui est excitant, c'est-à-dire qui tient la route, et puis ils gagnent leur vie.
Camille, il y a plein de questions, plein de messages.
Oui, Anne-Sophie nous écrit qu'on oublie de dire que l'agriculture biologique est beaucoup moins subventionnée que l'agriculture conventionnelle. C'est un des problèmes soulevés en ce moment d'ailleurs dans le débat sur la PAC, Nicolas Bricasse.
Absolument. Alors, il faut aussi voir que dans l'agriculture biologique, il y a une partie, c'est de l'horticulture. C'est des cultures de légumes qui bénéficient pas des soutiens de la PAC. Le fait est que, on aurait pu espérer que les 9 milliards, un peu plus des 9 milliards d'euros qui arrivent chaque année en France sous forme du budget de la PAC servent davantage à accélérer la transition agroécologique de l'agriculture. Mais c'est compliqué parce que il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont investi, qui sont dans des trajectoires dont il est difficile de sortir. Eux demandent avoir du temps pour transformer leurs pratiques agricoles. Et on a de l'autre côté, des gens qui disent non, on n'a pas beaucoup de temps, il faut aller vite. Et aujourd'hui, le rapport de force, il est là. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va falloir complètement transformer l'agriculture. Et l'enjeu maintenant, c'est de savoir à quelle vitesse et selon quelle trajectoire. Et là, évidemment, il n'y a pas consensus.
Michel nous écrit aussi, une fois de plus, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Comment envisager une agriculture saine face à des lobbies tellement puissants dans cette société ultra-libérale ?
Il me semble que de ce point de vue, la Convention citoyenne est un élément qui aide à modifier les rapports de force dans la négociation.
On a vu le résultat de la Convention citoyenne pour le climat.
On a vu les résultats sur la Convention citoyenne sur le climat, je suis d'accord. N'empêche qu'il ne fallait pas imaginer que c'était la Convention citoyenne sur le climat, on allait tout adopter ce qu'elle avait proposé. Elle apporte une voix légitime des citoyens, et ça a été porté haut et fort, qui permet quand même de dire aux lobbies qui veulent ralentir la transformation de l'agriculture ou du système alimentaire qu'aujourd'hui, il y a une impatience des citoyens. Donc ça joue dans le rapport de force. Il
me semble que c'est très compliqué. Sauf que ce sont toujours les lobbies qui freinent, et c'est ce qu'on a vu justement avec la Convention citoyenne.
C'est toujours les lobbies qui freinent, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'émerge aujourd'hui ce type de mobilisation citoyenne à des échelles plus petites.
D'ailleurs, on a un message de Pierre qui nous dit « Je constate un rapprochement entre citadins et paysans sur l'objectif de défense des terres agricoles » par rapport, par exemple, à des projets comme les nouveaux centres commerciaux. Donc ça, c'est un geste qui permet aussi le rapprochement.
Europa City a cristallisé, justement, cette question, comme on le voit dans le film « Douce France ». Un dernier message, Camille, avant de découvrir le reportage de Caroline Gillet.
Françoise qui nous écrit juste une remarque, elle dit « Quand on regarde le prix du bio, on oublie toujours que des produits bio sont plus nutritifs et ont plus de vitamines que les produits en agriculture chimique, donc on a besoin de moins de quantité pour couvrir les besoins journaliers. Donc ça finit par être moins cher.
» Cécile Détente de Cendre, une question très très rapidement. Est-ce qu'il va falloir payer de toute façon plus si on veut mieux manger ou en tout cas changer un peu nos pratiques ?
Mieux manger peut-être pas. Par contre, si on veut faire changer le modèle, oui, je pense qu'on ne passera pas sans accepter de payer un peu plus cher ce qu'on met dans son assiette.
Nicolas Bricade, c'est ce qu'on voyait, le budget des Français a diminué comme peau de chagrin consacré à l'alimentation.
Le budget a diminué et à revenu égal, les jeunes consacrent moins aujourd'hui à l'alimentation que des plus âgés à même niveau de revenu.
Et le pouvoir d'achat, il est par rapport à ça, il est stable, il a augmenté.
Le pouvoir d'achat a augmenté pour une partie de la population en moyenne, mais on a une partie qui est tombée, et notamment avec la crise, dans une plus grande pauvreté.
Allez, on aura encore quelques questions pour vous dans un instant, mais pour le moment, c'est l'heure de retrouver Caroline Gillet. Bonjour Caroline.
Bonjour Mathieu.
Un nouvel épisode de votre série de reportages sur la situation écologique et sanitaire des aires d'accueil des gens du voyage en France.
Et oui. Et aujourd'hui, on passe du temps avec William Hacker, juriste de tout juste 30 ans qui vit à Toulon et qui est issu du côté de sa mère de cette communauté des gens du voyage, une communauté hétéroclite qui compte entre 250 et 300 000 personnes en France. Alors William a passé 4 ans après le bac dans la Marine nationale avant de reprendre des études de droit pour apporter des conseils juridiques à sa communauté. Et il y a 2 ans, il s'est lancé seul dans un projet un peu fou. Il a recensé toutes les aires d'accueil de France pour dénoncer, chiffres à l'appui, les pollutions systémiques auxquelles sont soumis les gens du voyage et auxquels il a donc lui-même été exposé une partie de sa vie. Il a donc proposé que je le retrouve à côté d'un terrain régulièrement utilisé par les voyageurs pour les grands rassemblements annuels. Et ce terrain, il est juste derrière les puces de la ville de hier dans le Var.
Moi, c'est le plus souvent, les derniers souvenirs que j'ai ici, c'est vraiment de rendre visite à ma mère, en fait. Donc quand ma mère vient là, dans la région, elle se pose ici, et donc je lui rends visite ici. Si tu crains le soleil, tu vas comprendre.
Je vais comprendre. J'avais déjà commencé à comprendre, mais là, ouais, il n'y a pas d'ombre possible.
Alors là, on est au bord de la Nationale, 90 km/h. Les km/h, c'est important parce que ça te permet de comprendre le bruit. Hein. 90, tu sais que bon, tu commences à avoir un truc qui est chiant, quoi.
Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cette question ? Est-ce qu'on peut dire que ça remonte à septembre 2019 avec Lubrizol ? Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ce jour-là ?
Au moment de Lubrizol, il y a eu cet incendie et on s'est rendu compte qu'au pied de l'usine, il y avait une aire d'accueil. L'année passée, il y avait déjà eu un accident industriel, le SIAP de Saint-Germain-en-Laye, qui est en fait un centre de traitement des eaux lourdes, qui avait pris feu. Et là aussi, une aire d'accueil était au pied. Donc il y avait une récurrence comme ça des aires d'accueil à côté, à proximité de sites dangereux. Et puis tout a commencé de là. En fait, il y a eu une espèce de mouvement collectif avec les habitants, avec les chercheurs, avec d'autres associatifs pour écrire une tribune dans l'IB. Et en fait, on s'est confronté à l'administration et notamment à des représentants du gouvernement qui ont dit que, en gros, la tribune était un peu démago, quoi, puisqu'on n'avait pas de chiffres pour étayer nos propos. Et c'est de là que c'est parti. Il nous manquait cet outil pour mener des luttes et être pris au sérieux. Et donc c'est ça que j'ai essayé de produire avec une démarche de recensement de toutes les aires d'accueil, département par département, qui a mis un an et demi parce qu'il y a quand même près de 1400 aires d'accueil. À chaque fois, il a fallu les localiser, analyser l'environnement autour, qu'est-ce qu'il y avait, quelles installations, est-ce que c'était des déchetteries, des stations d'épuration, des usines, quel type d'usine, à combien de mètres. Et en fait, bah, on a des chiffres qui sont hallucinants, en fait. 51% des aires subissent des pollutions visibles du ciel. Donc ça veut dire que en pratique, il y en a beaucoup plus que 51%, parce que je prends pas en compte la pollution des sols, je prends pas en compte les espaces inondables, je prends pas en compte la question des vibrations ou la question sonore, de choses comme ça.
Ta vie sociale a dû souffrir pendant un an et demi. Ça devait être l'enfer.
Ouais, j'ai de la chance d'avoir une vie bien stable avec des gens qui m'entourent, qui sont bien stables aussi. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de produire du discours, parce que je me rends compte que bah, des fois j'ai des jeunes qui là tu vois, il y a une semaine il y a des jeunes en banlieue parisienne qui ont bossé sur mon livre, des voyageurs, et puis ils ont trouvé ça génial, ça leur a permis de dire plein de choses sur eux-mêmes, donc c'est ça aussi tu vois qui manque, c'est des discours. Donc ça, moi aujourd'hui ce que j'ai envie c'est de partager ça et puis de faire émerger aussi des paroles.
Quels sont peut-être tes premiers souvenirs de discrimination? Tu disais tout à l'heure que puis il y a effectivement des questions qui se posent à l'adolescence et auxquelles tu n'as pas forcément de réponse.
Bah, bizarrement, les premiers souvenirs, c'est de ma propre famille, puisque du côté de mon père, bah, il y avait des réflexions sur le parler de ma mère, sur le fait qu'on n'avait pas les mêmes chances dans la vie, que enfin voilà, il y avait un fond qui me montrait que quelque part le modèle familial et culturel de ma mère n'était pas le bon. Et après c'est des rencontres quotidiennes, que ce soit à l'école, au travail. Finalement le voyage et toutes les communautés du voyage et plus largement les communautés romanies, c'est du patrimoine européen et c'est un patrimoine français. Le voyage, c'est français. Tu vois, quand tu remontes les arbres généalogiques de ma famille, par exemple, du côté de ma mère, tu remontes jusque plus loin que la Révolution. Ils ont été tellement fichés et traqués que tu retrouves des traces de partout, quoi. Et ils sont sur un même territoire, ils sont en Sarthe depuis 300 ans. Ils sont plus sartois que la plupart des Sartois, en fait. Et malgré tout, encore aujourd'hui, bah, on les traite comme des étrangers.
Alors le livre de William s'appelle « Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d'accueil ». Il est publié aux éditions du Commun, mais aussi accessible gratuitement via un lien qu'on mettra sur la page reportage de la Terre au Carré.
Voilà, merci beaucoup Caroline Gillet. On se retrouve demain pour le dernier épisode et c'est à réécouter évidemment vos reportages passionnants et édifiants à la fois sur la page de l'émission. À demain.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas.
Et c'était Louise Attaque, bien sûr, sur France Inter. On termine cette émission consacrée à l'agriculture, à l'alimentation et aux Français avec Nicolas Bricasse et Cécile Détente de Sande, Camille.
Et un message de Julien qui est agriculteur sur franceinter.fr. Vos invités peuvent-ils nous donner les références des études scientifiques qui attestent que le bio est meilleur pour la santé, Cécile Détente de Sande?
Alors les résultats, ils touchent essentiellement les prévalences des cancers. Et donc, c'est des travaux d'Emmanuel Quesguillot et de son équipe sur les prévalences de cancer et l'alimentation en bio.
Oui, mais ça dit quoi?
Ça dit que vous avez une probabilité plus faible d'être atteint d'un cancer, ou plutôt une probabilité plus élevée d'être atteint d'un cancer quand vous ne mangez pas de bio.
Nicolas Bricasse, il n'y a pas vraiment d'études, de toute façon. Elles sont...
Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup de différences nutritionnelles, mais qu'effectivement, ouais, il y a un peu plus d'antioxydants dans les produits bio, parce que les plantes développent des antioxydants pour se défendre et on les mange, donc c'est plutôt favorable. Mais on ne peut pas dire que manger bio, vous avez une meilleure santé. Ouais. Ça dépend de tellement d'autres choses.
Bon, il y a moins de pesticides.
Il y a moins de risques de cancer, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Et puis une dernière remarque de Clisson qui nous écrit « Il faudrait arrêter de clamer que les Français aiment ou rejettent telle ou telle chose. Qu'il y ait des mécontents écologistes ou gilets jaunes qui parlent fort, c'est évident. Mais ils sont très très loin de représenter les Français. Ceux-ci ont du bon sens et savent choisir. »
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Il faudrait beaucoup plus d'émissions pour développer ce sujet. En tout cas, je vous invite à aller au cinéma aujourd'hui, aller voir Douce France, ce film de Geoffroy Quanon. Merci beaucoup. On termine avec la chronique du vivant.
France Inter. La Terre au carré.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour Marc-André.
Bonjour.
Alors dans votre chronique du vivant, aujourd'hui, vous nous parlez du grand malentendu des fleurs.
Eh oui, la semaine passée, nous évoquions des divergences potentielles entre les fleurs et les insectes. Les insectes visitent la fleur pour se nourrir, sans plus. La fleur, elle, doit être pollinisée. Elle envoie par insecte interposé le pollen de ses propres étamines vers d'autres fleurs, tandis que son pistil recueille le pollen venu d'ailleurs, qui lui permettra de devenir un fruit. Or, des insectes peuvent butiner le nectar sans emmener ni déposer de pollen. À long terme, cela nuit à la reproduction des plantes. Mais à court terme, bien nourris, ces insectes-là, indésirables, peuvent prospérer.
Alors, est-ce qu'il existe des moyens d'assurer la pollinisation?
Mais Camille, certaines fleurs attirent du coup les insectes qui mangent leur pollen, figurez-vous. Ces fleurs, comme le bouton d'or ou les églantines, ont de très nombreuses étamines, ces structures qui donc produisent le pollen, de couleur très jaune. Elles sont visitées par des insectes qui cherchent, manipulent et mangent le pollen. On y trouve souvent des petits coléoptères tartinés de pollen. Quoi qu'ils en mangent hélas la plus grande partie, ils transportent quand même quelques grains de pollen involontairement épargnés en changeant de fleur, mais c'est une stratégie risquée pour la fleur. Les autres fleurs, elles, attirent des insectes qui butinent le nectar et elles cachent la couleur jaune de leur pollen dans des étamines colorées ou foncées. Pensez aux coquelicots, par exemple.
Mais qu'est-ce qui fait Marc-André Sellos alors que la pollinisation a lieu?
Eh bien, la structure de la fleur. Regardez donc une fleur par en dessous. Souvent, les pétales sont séparés, comme sur le géranium ou le fraisier. Mais entre les pétales, en alternance, il y a des sépales. Ces petites parties vertes bouchent les interstices entre les pétales. Alors du coup, l'insecte ne peut pas butiner depuis le dessous entre les pétales. Il doit arriver par-dessus, où se trouve étamine et pistil, auquel il est donc contraint de se frotter. Dans l'évolution des plantes, les fleurs à pétales soudées en tubes sont apparues plusieurs fois pour la même raison. Digitales, bruyères, mufliers, sauges... Pour accéder au nectar qui est accumulé au fond du tube, l'insecte doit, là encore, frôler les étamines et le pistil qui le surmontent. Le tube impose un code de bonne conduite. Il existe des dispositifs plus élaborés. Chez la sauge, l'entrée de l'insecte dans le tube floral fait basculer les étamines qui viennent lui tâtonner l'abdomen. Chez certains genêts, les étamines sont comprimées par les pétales et, en cherchant le nectar, l'insecte les libère brutalement et se poudre de pollen. Ça, c'est un truc à observer et à essayer cet été.
Donc, il n'y a plus de problème avec ça.
Mais Camille, malheureusement, si, parce que dans l'évolution, certains insectes ont contourné ces dispositifs et ils les rendent imparfaits. Regardez bien de près les fleurs en tube, comme le chèvrefeuille par exemple. Parfois, le tube est troué sur le côté. Les insectes dérobent par ce trou le nectar. Et d'autres insectes utilisent ensuite cette voie d'accès, qui est impropre, à polliniser la fleur. On idéalise la pollinisation par les insectes comme une belle entraide. Mais les intérêts des protagonistes ne sont pas exactement alignés. La semaine dernière, on a vu que certaines fleurs sans nectar leurraient des insectes. Aujourd'hui, certains insectes pillent des fleurs. En fait, les plantes et les insectes, incapables d'éviter les abus de leurs partenaires, se sont éteints sans descendance. Et il ne reste que ceux qui parviennent, qu'à un cas, à contraindre l'interaction à leur avantage. L'impression que ça marche cache une construction évolutive essentiellement instable.
Merci beaucoup Marc-André Sellos. Ce sont les chroniques du vivant, bien sûr en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis on retrouve d'autres histoires de fleurs dans votre livre « Les goûts et les couleurs du monde » paru chez Actes Sud. À la semaine prochaine.
Au revoir Marc-André.
À bientôt.